Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour le grand écran de Vivante Église, l'émission que nous consacrons chaque mois au cinéma, avec comme d'habitude deux films au sommaire, Vivaldi et moi, premier long métrage du réalisateur italien Damiano Micheletto. Il est entre autres à l'affiche du cinéma L'ABC à Toulouse. Et puis nous allons revenir ensuite sur la Palme d'Or du Festival de Cannes 1987, Sous le soleil de Satan, réalisé par Maurice Pialat, d'après le roman éponyme de Georges Bernanos. Et pour ce grand écran de Vivante Église, je retrouve mes camarades cinéphiles, Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Bienvenue à vous deux. Je signale d'emblée nos auditeurs que vous animez le ciné-parole dédié à Vivaldi et moi mardi prochain, le 26 mai à 14h30 à l'ABC. C'est donc ce film qui va nous intéresser lors de la première partie de cette émission. Comme je l'ai indiqué, il s'agit du premier long-métrage de l'Italien Damiano Micheletto, qui en fait n'est pas du tout un cinéaste à la base, Marie.
Ah non, non, c'est un metteur en scène d'opéra. Il est surtout célèbre, très célèbre pour ça. On connaît ses réalisations, ses mises en scène, en particulier en France, puisque c'est lui qui avait mis en scène les Contes d'Hoffmann, qu'on avait pu voir à Lyon, et vous l'avez souligné aussi à Paris.
À Paris, l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier, et puis à Londres aussi, à Vienne, et bien sûr en Italie, à Rome, et chez lui, à la Fenice de Venise, puisque c'est un Vénitien,
oui.
Damiano Micheletto.
Alors il a choisi de parler d'une relation particulière entre un compositeur fameux qui ne connaît pas Vivaldi, ne serait-ce que pour avoir patienté au téléphone avec le printemps des quatre saisons.
D'ailleurs, le titre du film en italien, c'est Primavera.
Primavera,
oui. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il faut souligner que le titre original convient mieux à l'histoire que Vivaldi et moi.
Oui, qui est trompeur, effectivement.
Qui peut laisser supposer que le film est un biopic sur Vivaldi, alors qu'il ne l'est pas du tout. Mais il parle d'une relation entre cette jeune fille, une jeune fille dont on va situer le parcours, et de Vivaldi, qui est un maître de musique.
Voilà. Ouais, alors vous l'avez précisé, effectivement, ce n'est pas un biopic sur Vivaldi. Il ne raconte pas la vie personnelle du compositeur, dont on sait d'ailleurs fort peu de choses, en fait. C'est une adaptation d'un roman publié en 2009 par un écrivain vénitien, lui aussi, Tiziano Scarpa, qui a pour titre Stabat Mater. Il s'agit donc d'une fiction, certes historique, mais une fiction quand même, dans laquelle Vivaldi n'est pas tout à fait le personnage principal. C'est ce que vous indiquiez dans votre introduction, Louis-Marie.
D'ailleurs, il n'apparaît pas dès le début du film.
Non, non, non.
Il apparaît plus tard. Mais je vais laisser
Paul nous présenter l'histoire.
Mais on va comprendre comment il va arriver dans cet établissement où il y a cette jeune fille. Alors, elle n'est pas orpheline, mais elle a été abandonnée. Mais on va tout comprendre.
Oui, donc cette jeune fille qui s'appelle Cecilia a été recueillie comme d'autres enfants abandonnés de la naissance, avec une particularité, on leur laisse l'espoir de retrouver, si la mère le veut bien, leur mère qui les a abandonnés. C'est-à-dire qu'au moment où elles sont accueillies dans l'orphelinat, elles ont la moitié d'une image et l'autre moitié est gardée par la mère. Et donc, si la mère revient sur son abandon, on met les deux morceaux de l'image et si ça
correspond,
voilà, la fille a bien retrouvé sa mère.
La fille est rendue à sa mère.
Et là, on voit dans le film que Cecilia n'est pas reconnue par sa mère alors que les images correspondent. Et elles attribuent à une autre plus jeune cette reconnaissance, cette juxtaposition des deux parties de l'image qui était restée comme preuve que c'est bien la fille et que c'est bien la mère. Et ça, c'est une très grande blessure pour Cecilia, qui a toujours rêvé de pouvoir rencontrer sa mère.
Et de pouvoir quitter cet établissement.
Oui, parce qu'elle vit cloîtrée, d'une certaine manière.
Cloîtrée
et masquée lorsqu'elles se produisent en public.
Elles sont invisibilisées complètement. Elles jouent dans une tribune, mais on ne voit que le chef de chœur ou d'orchestre. Et quand elles se produisent en public, elles ont un masque.
Ouais.
Donc, c'est les femmes invisibles. Mais les femmes invisibles instruites l'écriture, le calcul, la musique et l'exercice de la musique. Il se trouve que Cecilia est remarquée par le nouveau chef,
maître de chapelle en Allemagne. Mais...
Oui, c'est ça, maître de musique, qui découvre en elle deux choses, un talent réel et une volonté ferme de ne pas céder à la flatterie.
Il lui dit d'ailleurs à un moment donné, parce qu'il va lui dire « tu vas être mon premier violon dans cet orchestre », et elle s'étonne. Elle lui dit « Non, je ne t'ai pas choisi parce que tu es forcément la meilleure, je t'ai choisi parce que tu ne joues pas pour la louange. »
C'est ça.
En gros, je ne joue pas pour recueillir les applaudissements, les flatteries, effectivement. Oui. Elle joue par amour de la musique.
Alors, par amour de la musique, et elle est partagée, cette jeune femme, et on va le voir tout au long du film, entre son amour de la musique et son excellence dans ce domaine-là, et son désir d'avoir une vie normale, c'est-à-dire de sortir de cette
enfermement.
Hôpital qui est en même temps une prison, et les femmes qui y sont, les jeunes femmes qui sont là, sont pour la plupart, parce qu'il faut bien faire vivre l'hôpital. Et,
Ne vit que des dons.
Ne vit que de dons et que de mariages arrangés.
Alors il y a les dons qui sont faits directement pour soutenir l'établissement, voilà. La cause qu'il défend, et puis il y a des dons qui sont faits d'une autre manière.
Mais c'est-à-dire qu'on livre ces jeunes femmes à un mariage convenu avec un mari qui a l'âge de au moins...
Au moins être leur père, pour ne pas dire leur grand-père pour certains.
Oui, c'est ça, voilà.
Ce sont des veufs, souvent, c'est la question. Ou des militaires ou des aristocrates, plutôt des militaires.
Oui, des militaires.
Et il se trouve qu'elle est promise à un militaire qui est un officier qui est actuellement en train de guerroyer. C'est la guerre entre, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus, c'est 1714-1718, entre Venise et les Turcs.
Oui, c'est ça.
Voilà, et donc elle attend... Et quand la guerre sera finie, elle sait qu'il viendra la chercher.
Et donc, elle compose avec ce qui se passe dans l'hospédale. Et elle compose sa vie grâce à la musique, justement. Composer correspond bien à ce qu'elle veut faire, parce qu'elle aime jouer du violon. D'ailleurs, vous l'avez souligné, Eric, à propos du choix de Vivaldi d'en faire son premier violon, parce qu'elle aime plus jouer, plus qu'elle aime montrer qu'elle est brillante violoniste. Elle est bonne violoniste parce que ça lui plaît. Et puis, il y a quelque chose qui la taraude quand même, c'est sa mère. Ce manque et cette volonté de la retrouver. Elle en fait une fixation. Elle passe ses journées à chercher, à aller regarder en douce la nuit
c'est
en particulier.
C'est la nuit, pas les journées d'ailleurs, c'est la nuit qu'elle va fouiller dans les archives de l'hospice.
Où il y a trace.
Le nom de cet établissement qui est réel, qui a existé et dans lequel effectivement Vivaldi a été maître de musique, c'est l'Ospedale della Pietà, l'hospice de la pitié. Et effectivement, il recueillait des jeunes filles
qui avaient
entre 15 et 18 ans.
Et en même temps, le directeur amassait beaucoup d'argent. C'était pas un bordel, excusez le mot, mais c'était quand même l'exploitation éhontée de ces jeunes qui étaient emprisonnés, sanctionnés quand elles dérogeaient à la règle, le cachot, etc. Enfin, c'était pas une vie rose. Mais en même temps...
C'est une vie conventuelle.
Elles étaient éduquées, elles savaient lire, écrire, compter, etc. Ce qui n'était pas le cas des jeunes filles à l'époque.
Oui, puis certains, vus de l'extérieur, auraient dit « Mais en plus, vous êtes promise à un beau mariage avec un homme très riche. »
Ben voilà.
Alors bon, à l'époque, vous savez, le mariage d'amour, ce n'était pas forcément
non,
la norme.
Pas, hein, non, non,
pas regarder ça avec nos yeux d'aujourd'hui. Alors, j'ai regardé, cet hospice, en fait, il a été créé au milieu du XIVe siècle.
Oui.
Donc, lorsqu'on le découvre en 1716 à Venise, c'est quand même 3 siècles et demi après la création.
Et oui, il y avait une longévité de ces institutions et qui convenait bien à la société. Je trouve que le film est tout à fait intéressant aussi de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on voit la réalité de la place des femmes ou de la non-place des femmes
au début du XVIIIe siècle.
Au début du XVIIIe siècle.
En Italie.
Et le fait qu'elles n'ont rien à dire sur leur devenir. C'est les hommes qui décident. Et pour un militaire qui revient avec une gloire acquise pendant la guerre qu'il a menée, il découvre qu'elle se refuse à lui et que, d'autre part, il ne peut pas l'épouser et il va... Est-ce qu'on peut...
Il vaut mieux pas parce que c'est assez déterminant dans ce qui se passera, en particulier à la fin du film. À la fin du film. Et donc, trop en dire sur la relation qu'elle va avoir avec cet homme auquel elle est promise, c'est...
Spoiler.
C'est un peu... Mais ce qui est aussi...
D'autant plus que on ne voit pas forcément arriver. Donc non, je pense qu'il est préférable de ne pas dire ce qui va se passer,
oui.
Ce qui est extrêmement violent, ce qui va se passer, mais on ne va pas dire de quoi il retourne. Quand j'ai vu la scène, je savais qu'il allait se passer quelque chose, mais je n'imaginais pas la scène en question. Bon, ça, on va laisser,
le suspense.
Les spectateurs le découvrir. Pour
on peut parler de perversité.
Oui.
Mais ce qui est important aussi à souligner, on a parlé de l'hospédale et de l'hospice, disons l'hospice. Oui. C'est qu'au début de l'histoire, au début du film, on se rend compte en entendant les responsables de l'établissement qu'ils ont quand même des problèmes financiers.
Oui.
C'est ce qui les amène à rappeler Vivaldi. Ça, c'est une chose. Et de mettre beaucoup l'accent sur justement ces mariages arrangés, cette façon de vendre leur...
Oui, parce qu'il y a deux choses pour faire valoir l'établissement. Il y a effectivement les jeunes filles qui sont, j'allais dire, presque marchandées.
Oui.
Mais il y a aussi la musique. Et il faut que les concerts plaisent aux aristocrates qui viennent les voir, parce que c'est ce qui va aussi faire qu'ils vont faire des dons. Ah, vous avez un merveilleux orchestre, c'est formidable, on va vous donner de l'argent. Et c'est pour ça que Vivaldi est rappelé à un moment donné, sachant qu'il a déjà été maître de musique.
Oui.
Alors, je vais regarder les dates, parce que ça, je pense qu'historiquement, le film est tout à fait cohérent. En 1703, il a 25 ans, il est embauché par cet hospice. Et puis, ça ne se passe pas très bien, parce que je pense qu'il avait un caractère pas très souple. Donc, il est écarté. Et en fait, il est rappelé en 1716, une douzaine d'années après être entré. Il revient, il n'est pas encore en pleine gloire, c'est pas encore un compositeur connu, pas du tout. Hein. Même s'il a, mais il a déjà 38 ans,
et
38 ans, et il a déjà quelques compositions derrière lui. Mais bon, après je laisse les gens vraiment regarder la biographie de Vivaldi pour voir ce qu'a été son histoire, parce que c'est pas aussi simple que ça peut en avoir l'air aujourd'hui, où tout le monde le connaît. Une chose qu'on n'a pas dit, ce qui se passe la nuit, effectivement, elle va finir dans les archives, mais elle fait autre chose. Et ça, je pense qu'on peut en parler.
Oui.
Elle tient un journal.
Exactement.
Elle écrit la nuit en cachette.
Oui, oui. Et qu'elle cache justement, dans l'église ou une chapelle, effectivement. Et ça aussi, c'est important.
À qui elle parle dans ce journal?
Ben oui, c'est un journal intime, d'une certaine façon, c'est ça. Et elle parle...
À sa mère.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Elle lui livre tout ce qu'elle fait et ce qu'elle attend de leur retrouvaille. C'est quelque chose qui est poignant. C'est là où le réalisateur Damiano Michelito réussit bien son coup. C'est que sa mise en scène par rapport à tout ça est sobre. Elle est à la fois sobre et rigoureuse. C'est-à-dire que c'est très précis. Alors, dans cette mise en scène, il n'y a pas grand-chose d'original. Elle est... Somme toute, on pourrait dire académique d'une certaine façon,
ou
classique en tout cas, académique, ça pourrait être péjoratif, elle est classique, mais justement, de cette façon, il privilégie l'épure et la force du jeu de ses interprètes et de ses personnages. Et c'est ça qui plonge le spectateur dans cette histoire et qui rend tous ces personnages, et en particulier celui de Cecilia, particulièrement empathique. On éprouve nécessairement de l'empathie pour cette jeune fille. On a envie qu'elle arrive à s'extraire de tout ça et de la façon dont elle rêve de s'extraire, puisque on le sait, ce dont elle rêve, vous l'avez souligné, Eric,
en écrivant
ce fameux journal. Et là, pour le coup, ça marche. On est d'autant plus marqué par l'espoir que ça marche pour elle, par ce que ressent Vivaldi pour elle. Il ne faut pas penser du tout qu'il va y avoir une relation amoureuse entre les deux. Ça n'a rien à voir.
On peut l'imaginer, mais c'est pas... Même si on sent que tout est très feutré entre eux, ce qui les réunit surtout, c'est l'amour de la musique.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Il s'est rendu compte, Vivaldi, que cette jeune fille aimait la musique, qu'elle aimait en jouer et qu'elle l'aimait par-dessus tout. C'est cette raison qui l'a conduit à en faire son premier violon. Et il est... enchanté.
Il est même un peu subjugué.
Oui.
C'est-à-dire qu'à la différence...
Une complicité, ça c'est sûr.
Ça. Une complicité d'ailleurs, il lui demande de recopier les partitions, etc. Donc ils collaborent tous les deux, ce qu'on ne voit pas pour les autres. Et en même temps, son projet à Cecilia, c'est de faire une musique qui soit magnifique. Et elle est reconnue pour cela par Vivaldi.
Mais même par le public.
Et aussi par le public. Mais le public ne la verra pas.
Alors, sauf lorsqu'elle joue une fois devant le roi du Danemark qui est en visite à Venise.
Oui.
Et là, c'est un concert privé.
Oui.
Et là, les jeunes filles sont à quelques mètres de ceux qui écoutent. Il va demander à la voix, il va même demander à ce qu'elle enlève son masque.
Oui.
C'est lui qui lui enlève son masque. Ouais,
elle ne veut pas.
Après l'avoir demandé.
Oui, parce qu'elle joue, comme vous l'avez souligné, puisqu'elle joue à l'extérieur de l'établissement.
Oui.
Quand elle joue dans l'établissement, elles sont sur une espèce de balcon grillagé.
Oui, bah c'est les balcons qui sont dans les églises.
Ouais. Et donc, on les aperçoit à peine. On doit voir les archers des instruments, c'est tout ce qu'on qu'on aperçoit. Tandis que là, elles sont au plus près des gens pour lesquels elle joue, et c'est vrai que le roi du Danemark, alors là, c'est aussi assez savoureux.
Il est un très vieux monsieur aussi.
Oui, et puis il joue à Colin Maillard.
Oui. Ça se faisait beaucoup dans les,
oui,
dans les courses.
Donc on comprend pourquoi il veut lui enlever le masque. Enfin,
Oui. On voit le côté un peu délétère, ou un peu pourri, de cette puissance qui peut tout se permettre, d'ôter le masque, de... Voilà. Tous les sens du terme.
D'un point de vue historique, à la fois les décors aussi du XVIIIe siècle, les costumes, tout ça, c'est remarquablement
magnifique.
Bien fait. Et on voit que c'est un metteur en scène d'opéra qui a mis notamment en scène des opéras de cette époque. Mais il y a aussi le regard sociologique la façon dont les gens avaient des relations à cette époque, notamment dans ces milieux-là. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé qui me semble important, c'est celui, alors je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, l'espèce de mère supérieure.
Oui, c'est ça.
Qui est très ambiguë. Dans les relations qu'elle a avec les filles. C'est-à-dire qu'elle peut être à la fois très stricte, pour ne pas dire sèche, pour ne pas dire méchante. Elle est là pour faire régner l'ordre.
Oui.
Mais elle peut aussi avoir des côtés empathiques aussi, notamment vis-à-vis de Cecilia.
Oui, se laisser toucher. On ne dira pas plus.
Oui, parce qu'on va comprendre pourquoi elle peut avoir de l'empathie pour elle.
Oui.
Il y a un signe qui va nous le montrer.
Effectivement, rien n'est gratuit. Mais c'est vrai que dans le film, on voit ce que veut montrer Michelito, le réalisateur. C'est qu'il interroge, en fait, dans Venise de cette époque, l'Italie et Venise de cette époque en particulier, la valeur des femmes. La valeur au sens figuré et...
Et sonnante et trébuchante.
Exactement, c'est ça. Et puis, la société, on l'a déjà dit, est marquée à la fois par le paternalisme.
On s'occupe bien de vous.
On s'occupe bien de vous. Et,
soyez reconnaissants.
Et la domination masculine, c'est incontestable. Là, pour le coup, les femmes n'ont pas beaucoup de choix et pas grand place.
La domination de classe aussi. Oui. On voit que c'est la haute société de Venise, mais on ne voit pas le peuple. De Venise.
Non, on le croise parfois dans la rue, un petit peu.
Bon. Un peu. Un très très beau film, avec plein de petits détails qui permettent de réaliser, enfin c'est pas lourd, c'est pas appuyé, mais c'est très éloquent.
Alors ce qu'on doit préciser aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, elle s'appelle Cecilia, et vous savez que Sainte Cécile, c'est la sainte patronne des musiciens.
C'est la patronne des
musiciens. Donc elle symbolise aussi la musique, et en l'occurrence la musique qui libère.
Oui.
Parce qu'elle va aussi libérer Vivaldi d'une certaine manière.
Oui.
C'est un peu grâce à elle et à leur relation, le fait qu'elle le stimule, qui va composer des œuvres qui vont être enfin reconnues à leur juste valeur. Ça finit sur Judith triomphante, son oratorio magnifique. Et on voit que Vivaldi, lui, il a besoin de reconnaissance quand même.
Oui.
Il est quand même là-dedans. À un moment, elle lui tend un peu la perche pour qu'il la défende, pour qu'il la sorte peser avec le pouvoir que vous avez ici pour que je reste à l'orchestre. Je ne veux pas me marier avec ce vieux monsieur. Et on sent qu'il est hésitant, mais il ne va pas le faire.
Il ne va pas le faire.
Il a sa carrière.
Il se dérobe.
Oui, il a sa carrière.
Oui, il fait un grand pas de côté.
Elle n'a pas l'air de lui en vouloir, d'ailleurs.
Non.
Elle le comprend.
Oui. Et ça, c'est très intéressant aussi.
Un mot sur les acteurs, parce qu'il y en a qui sont vraiment excellents là-dedans.
Ah, oui.
Ah ben, en particulier, Cecilia, Tecla Insolia,
Tecla Insolia, qui est une chanteuse dans...
Elle rayonne, dans littéralement. Elle incarne parfaitement cette... orpheline, puisque c'est un orphelinat. Elle est parfaite. Elle est... Effectivement, quand on voit son visage, quand le roi du Danemark, on revient là-dessus, enlève le masque, il est...
subjugué.
Subjugué, puis il faut noter...
Il lui dit, vous êtes jolie.
Oui, il lui dit, vous êtes jolie, oui. C'est-à-dire qu'il est tellement subjugué qu'il en perd ses mots.
Oui.
Bon, il faut dire qu'il ne maîtrise pas tellement bien l'italien. Hein.
Oui.
Et puis, il y a Michele Riondino qui joue le rôle d'Antonio Vivaldi. Aussi, très bien.
Acteur connu en Italie.
Oui.
D'ailleurs Tecla.
Il y a une très belle distribution. C'est une distribution. Les acteurs sont effectivement des noms très connus et des personnages très connus en Italie. Ce n'est pas leur premier film et ce n'est probablement pas le dernier.
Non, certainement pas.
Bon. Et la musique a une place
bien entendu.
De choix.
Bien entendu.
Mais elle est utilisée avec finesse.
Oui, tout à fait.
Oui,
c'est très subtil.
On n'entend pas du Vivaldi en fond, en permanence.
Par exemple,
Nous n'allons pas en dire plus, à vous de vous faire votre idée en allant voir Vivaldi et moi, qui est projeté en ce moment dans la plupart des salles de notre région, et en particulier à l'ABC à Toulouse, où vous pouvez échanger avec Paul et Louis-Marie mardi prochain, le 26 mai, lors du ciné-parole qu'ils animent après la projection du film qui commencera à 14h30. Nous allons nous octroyer une pause avant la seconde partie de cette émission. Elle va donc être consacrée au film « Sous le soleil de Satan » réalisé par Maurice Pialat, d'après le roman éponyme de Georges Bernanos. Il est sorti en 1987. Il avait reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes la même année. Sa musique a été commandée à Henri Dutilleux, l'un des plus grands compositeurs français du XXe siècle. Mais on revient à la musique, qui a su, à mon sens, très bien capter l'atmosphère du roman de Bernanos, très bien restituée dans le film de Piala. On l'écoute et l'on se retrouve dans 3 minutes en compagnie de Paul et Louis-Marie.
Vivante Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne pour la seconde partie de ce grand écran de Vivante Église. Je suis toujours avec Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et de Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Nous allons donc revenir maintenant sur un film qui avait fait l'objet de vives polémiques à l'époque de sa sortie, Sous le soleil de Satan, réalisé par Maurice Piala, d'après le roman de Georges Bernanos, Palme d'Or en 1987. Et tous les cinéphiles se souviennent des sifflets qui avaient accompagné la remise de la récompense à Piala, qui leur avait répondu par un mémorable « À ceux qui sifflent et qui visiblement ne m'aiment pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus ». Bon, ça, c'est l'écume des choses, et c'était là ce que beaucoup retiennent de ce film qui mérite mieux que ça. Paul va nous rappeler l'intrigue et ses protagonistes, et puis on parlera de nos impressions, après avoir revu cette œuvre étrange dont Piala a longtemps nourri le projet avant de le réaliser à 60 ans passés.
Alors, les protagonistes principaux sont des prêtres un peu perturbés quand même, on peut dire, qui sont travaillés par la peur que leurs paroissiens ne soient pas sur le bon chemin. Et donc, il faut qu'il les ramène sur le bon chemin. Alors, il y a deux prêtres qui sont l'un joué par Gérard Depardieu, un jeune prêtre qui se sent dépassé et indigne d'une certaine façon d'être prêtre et qui
est rongé par le doute.
par le doute très profondément. Et ce doute est creusé aussi par la reconnaissance que lui donnent des paroissiens, mais qui est plus de type miraculeuse. Et il est reconnu comme un saint qui fait des miracles. Et que lui, ça le perturbe complètement aussi, parce que c'est pas ce qui...
Mais il ne se voit pas comme ça, lui.
Non, il ne se voit pas comme ça.
Il ne se voit pas du tout comme un saint, c'est moins qu'on puisse
dire. Et alors ce jeune prêtre...
Qui s'appelle Donissant, rappelons-le.
Oui, qui s'appelle Donissant. Et dans une paroisse où le curé, joué par
Maurice Piala lui-même,
l'abbé
Menou Segret.
Voilà, Segret, qui perçoit dans la fragilité de ce jeune prêtre quelque chose de l'ordre de la sainteté aussi.
Il lui dit.
Et alors ça déstabilise encore ce jeune prêtre Donissant. C'est un film qui est difficile, qui est dur, d'un classicisme important. Les images, les enchaînements des séquences et tout sont très, très travaillés et ne respectent pas forcément d'ailleurs l'ordre du roman de Bernanos.
Je vais le redire, c'est une adaptation réalisée par Maurice Piala lui-même. Encore une fois, c'est un projet qu'il a nourri dès ses jeunes années, après avoir lu le roman de Bernanos, quand il a voulu faire du cinéma. Rappel important, Piala voulait être peintre à l'origine.
Oui.
Plus tard, il fera Van Gogh, c'est par hasard. Quelques années après, il voulait être peintre et ça se sent beaucoup dans la façon dont l'image est traitée. Hein. Là, je dois dire, c'est magnifique, les plans que l'on voit, les paysages.
L'éclairage.
On est vraiment dans le roman de Bernanos,
c'est-à-dire
des atmosphères, la grisaille, la brume, la pluie, la nuit, la pénombre. Sous le soleil de Satan, on va expliquer pourquoi, mais ça, c'est vraiment très, très bien restitué.
Ouais. Il faut signaler aussi que c'est un film qui marque la carrière de Piala, parce que jusqu'à présent, malgré tout, il n'avait pas fait de film aussi austère que celui-ci.
Non.
Certes, le sujet s'y prête, mais il n'avait pas fait de film comme ça. Ce qu'il avait révélé en 72, c'est « Nous ne vieillirons pas ensemble
oui. ».
C'est Jean-Yann et Marlène Jobert. Bon, un problème de couple, mais on était loin de ça.
Piala parle beaucoup de lui dans ses films, hein, quand on connaît la vie du bonhomme.
Oui, oui. Et en fait, c'était un cinéaste rare, parce que si on compte le nombre de films qu'il a réalisés dans toute sa carrière, il y en a peu, il y en a 10
seulement.
Alors là,
en fait, c'est le 8e long métrage. Je ne compte pas la série télévisée La Maison des Bois, qui est peut-être son œuvre majeure, finalement. En tout cas, lui, c'était, son œuvre préférée. Mais effectivement, c'est son 8e long métrage.
8e long métrage, puisque suivront Van Gogh et Le Garçu.
Absolument.
Oui.
Et vous l'avez dit, Eric, Van Gogh, pour montrer sa passion de la peinture, ce qu'il voulait être, Piala. Et donc, il a choisi, parce qu'il a même écarté un projet qu'il avait déjà mis en branle, commencé à écrire pour s'occuper de mettre en scène et de monter Sous le soleil de Satan et l'adaptation de Bernanos. Quoi. C'était...
Alors, je crois qu'à un moment, il a hésité que Monsieur Wynn, autre roman de Bernanos,
exactement.
Et avec le recul, je regrette qu'il ne l'ait pas fait, parce que je pense que ça aurait été plus adapté à ce qu'était Piala, mais bon, ça c'est un autre sujet. Il a voulu s'attaquer à ce roman parce qu'il avait ça en tête depuis très longtemps. Il faut dire aussi, et on a eu l'occasion d'en parler il n'y a pas longtemps dans cette émission, qu'il passe après Robert Bresson, qui a été celui qui, le premier, a adapté les romans de Bernanos.
Oui.
Le journal d'une toute autre façon.
D'une autre façon. Bresson était un croyant, chrétien certes influencé par le jansénisme, mais bon, chrétien vraiment croyant, qui n'est pas le cas de Piala, ce qu'il a d'ailleurs toujours revendiqué.
Oui.
Je ne sais pas ce qu'elle était, la réalité de sa relation à Dieu ou au divin, mais bon, toujours est-il qu'il se disait non-croyant.
Ouais, agnostique.
Ouais, agnostique.
Agnostique.
Ce qui rend le film austère, la mise en scène y est pour quelque chose, mais les images sont incroyablement belles, la lumière, les cadrages sont incroyables.
La photo est superbe.
Mais les dialogues sont particulièrement monotones. Et par rapport à ce qui se passe, le conflit intérieur de cet abbé, ça nous met à distance. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que dans les dialogues, une phrase finit et l'autre commence. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui ne se chevauche. Et puis c'est dit comme ça, ce qui fait que le spectateur est à la fois... Alors, l'histoire qu'il raconte n'est pas évidente. Et en plus, la façon de le montrer la rend encore plus monotone. C'est assez incroyable. Et c'est ce qui fait aussi
le succès qui fait la
puissance du film.
Il s'agit aussi de créer le malaise et le mal-être chez le spectateur, bien sûr.
Ah oui, tout à fait, oui.
Ah, il y arrive bien.
Il faut qu'on arrive à rentrer dans la tête de Donissant.
Oui. Et il y a une séquence qui est particulièrement forte et qui arrive assez tôt dans le film. C'est à la demande de son curé doyen qu'il l'envoie vers une paroisse parce qu'il y a une famille qui est dans la peine, je ne vais pas développer. Et là, il se perd et il est accompagné par un maquignon.
Oui, c'est la grande scène du film, c'est le point de bascule de l'histoire.
C'est le point de bascule. Et en fait, ce maquignon
se révèle être le diable,
le Satan. Et alors, il y a le baiser du diable qui dit « je vais te protéger », etc. Et qui lui donne le don de voir les problèmes des gens qu'il va
rencontrer. Jusque-là, Denis s'est envoyé le diable et le mal en lui.
Oui.
Et d'ailleurs, on voit au début du film, il se mortifie.
Ah oui.
Ce que finit par deviner Menou Segrè.
Oui, qui lui dit d'arrêter ses excentricités.
Il lui dit aussi « n'attendez aucun secours humain, vous êtes voué à la sainteté ». Et donc, effectivement, à ce moment-là, le diable va lui donner une grâce, qu'il appelle une grâce, c'est ça qui est terrible. Et cette grâce, c'est la capacité de voir à travers les âmes.
C'est ça. Et il rencontre, après cet accompagnement diabolique, il rencontre...
Mouchette. Jouée par Sandrine Bonnaire.
Oui, par Sandrine Bonnaire. Et il la renvoie et il lui dit son passé, ce qu'elle a vécu.
Mais il sait ce qu'elle a fait, surtout.
Voilà.
Il faut expliquer qui est Mouchette. C'est une jeune fille qui a une adolescente,
qui
a 16 ans. Et qui se trouve être à la fois la maîtresse du marquis de Cadignan, donc un aristocrate du coin, gros propriétaire terrien, et aussi la maîtresse d'un député. Mmh. Et les députés la met enceinte.
Oui.
Ce qu'elle dit au marquis, enfin, il y a le ton monte entre eux, et elle finit par le tuer.
Sauf que... Un peu accidentellement, à l'insu de son plein gré.
Oui,
voilà, exactement. Pour reprendre les formules célèbres.
Le coup est parti tout seul. Sauf qu'elle ne va pas se dénoncer d'une part, et puis l'enquête va conclure un suicide.
Voilà.
Et lui, Denisson, lorsqu'il la rencontre, il se rencontre, alors ça se passe toujours dans des coins perdus de la campagne.
Oui, on se demande comment ils peuvent se rencontrer.
Voilà,
des
coins assez sinistres. Des coins assez sinistres. Et en fait, il va voir ce qu'elle a fait.
Oui.
Il devine ce qu'elle a fait.
Il lui dit.
Oui.
Et elle se trouve mise à nu devant ce que lui dit ce prêtre. C'est la lutte du bien et du mal. Mais dans le film, il n'est pas sûr que le bien l'emporte. Et c'est-à-dire que le bien qui viendrait de Dieu est mis à mal par le démoniaque. Et le prêtre est tiraillé entre les deux. Enfin, il va pas du côté du mal. Mais
jamais.
Jamais.
Mais il sait très bien qu'il
est écrasé par le mal.
Il est son jouet.
Oui, c'est ça.
Tous. Alors, ça tombe bien, vous parliez de ça, parce qu'il y a cette scène de la rencontre avec le maquignon. On ne sait pas si elle est rêvée ou pas, d'ailleurs, mais en tout cas, il se révèle que c'est le diable. Et il y a une autre scène terrible, éminemment bernanosienne dans ce film, lorsque Denisson est appelé par un paysan dont l'enfant est mort d'une méningite foudroyante.
Oui.
L'abbé donc, se rend sur place. Il va voir l'enfant sur son lit de défunt. Il ressort de la chambre du jeune défunt et puis il discute à l'extérieur avec le curé de la paroisse de cette commune. Je vous propose d'écouter leur échange.
Quitter cette femme à maman paraît. Quelle plus grande douleur que la mort d'un enfant? Qu'y a-t-il de plus terrible? Alors que j'étais devant elle, une pensée m'est venue. Une telle pensée.
Laquelle?
Rien. Seulement, cette voix intérieure, je savais, je sais toujours. Je suis sûr qu'un mot de moi a eu, mon Dieu, ressusciterait ce petit mort.
Regardez-moi, répondez-moi franchement. Qui vous a retenu d'éprouver votre pouvoir à l'instant même?
Je ne sais pas.
Vous allez rentrer derrière moi. Je vous excuserai de mon mieux. Vous irez dans la chambre mortuaire.
Je serai. Vous me croyez fou. Hélas, il y a peu de temps, je l'aurais encore souhaité. Prenez garde, Sabrou. Vous ne m'avez pas compris. Il est là. C'est lui, notre conscience. Il est notre conscience.
Ah, des hommes tels que vous.
Satan est prince de ce monde. Il l'a dans ses mains. Il est là, vainqueur. M'avez-vous compris? Je vous dis que nous tous sommes vaincus. Et Dieu avec nous, vaincus. Vaincus.
Quel blasphème.
Laissez-moi.
ne m'écoutez plus.
Satan est le prince de ce monde. Il l'a dans ses mains, il est là, vainqueur, nous sommes vaincus. Alors ensuite, Denisant ramène l'enfant à la vie durant quelques secondes, on ne sait pas si c'est définitif. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet extrait, à l'un et à l'autre ?
L'abandon de Dieu, le doute profond que la victoire n'est pas forcément acquise. Alors, c'est quelque chose de très intéressant au point de vue du rapport au Dieu des chrétiens mort et ressuscité. Et là, c'est au cœur du sujet, c'est-à-dire que quand Denisant va aller dans la chambre de l'enfant, il va prendre l'enfant et
le soulever
et il donne sa vie pour qu'il vive. Il donne sa vie de prêtre pour que l'enfant vive. Et il y a miracle.
L'enfant ouvre les yeux.
Et là, tous les gens...
La mère se précipite, évidemment.
Oui.
Elle lui dit, mais vous êtes un saint.
Voilà.
Et lui s'enfuit.
Et lui, oui, il s'enfuit.
Oui, parce que lui, il sait
ça
que
le dépasse,
c'est oui. Le diable qui lui a donné cette grâce, ce pouvoir. Lui, c'est comme ça qu'il le vit.
Oui.
Et d'une certaine manière, ce qu'il se dit aussi, c'est mais ressusciter cet enfant, c'est le ramener dans un monde dont Satan est le prince.
Oui.
C'est ça la conclusion.
Et qu'on n'échappe pas au piège qu'il nous tend.
Oui.
Il nous dirige, ce diable.
Ah, c'est ses paroles, il est vainqueur,
il est vainqueur,
vaincus.
Oui.
Il dit ça à son collègue, prêtre, quand il entend ça, l'autre, mais quel blasphème.
Oui.
Qu'est-ce que vous dites là ?
On ne sait plus trop quoi penser de ce prêtre qui passe son temps. Il est toujours dans la campagne, il erre, il va à la
recherche. Il marche dans la campagne, seul.
Seul, et puis il arrive parce qu'il passe des moments compliqués, terribles. Il est souvent sali, il marche dans des endroits boueux, l'herbe, l'école. Et il est là toujours tourmenté par ce doute. On le sent, vibrant de tout ce doute tout le temps. On se demande comment il fait pour vivre et survivre, surtout parce que c'est insupportable. Le spectateur, à force de le voir comme ça, est dans un tel état que, justement, c'est ce qui a pu aussi dérouter les spectateurs à la vision de ce film, c'est qu'à aucun moment, on ne peut être soulagé. Il n'est jamais soulagé, ce personnage. Jamais.
Une des parties du livre, et le terme est repris d'ailleurs dans le film, s'appelle « C'est la tentation du désespoir ».
Oui.
Et il parle notamment à propos de Mouchette.
Oui.
C'est plus la tentation du désespoir qui la guette que le remords, en fait, de ce qu'elle a fait.
Oui. Et en même temps, ça touche quelque chose de très profond.
Tout chrétien qui est confronté à cette œuvre, et là je parle du roman d'abord, bien sûr, est amené à se poser des questions.
Mm-hmm.
Sur le bien, le mal, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal ?
Oui.
La sensation qui sont inévitablement, inextricablement chevêtrées.
Oui.
Et comment discerner ?
Je voulais simplement souligner cette façon qu'avait Piala, dont on a dit qu'il n'était pas croyant, en tout cas il le revendique. Mais il a cette façon de filmer le sacré qui est assez extraordinaire. J'en reviens un peu à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire ces silences heurtés, les regards fixes, les visages cernés. Il montre le tremblement, pas la lumière, il montre le tremblement. Et c'est une façon quand même assez exceptionnelle, rare, de montrer comme ça la croyance alors qu'on ne l'est pas, alors qu'il ne l'était pas.
Alors vous avez remarqué que les seuls moments où un peu de lumière, un peu de soleil dans ce film, c'est justement les moments où on sent que le diable est très présent.
Oui. Voilà.
Lorsqu'il discute avec ce prêtre, là, l'extrait que je vais faire entendre, ils sont accolés à un mur de ferme. Là, on voit un peu de lumière, on sent qu'il y a un peu de soleil. Et après, quand il repart, on voit le ciel noir au fond, mais le soleil qui est sur son visage, alors qu'il vient de ressusciter l'enfant. Ce qui donne bien une indication sur la façon dont lui vit les choses.
Ce qui est d'ailleurs
pas Dieu qui m'a fait ressusciter l'enfant, c'est le diable.
C'est d'ailleurs l'affiche du film.
Oui.
Où on voit une partie du visage de
Denisant. Oui, la lumière, les ténèbres d'un côté.
Et puis l'essentiel des ténèbres derrière lui.
Alors le film, bon, on ne peut pas tout raconter, mais d'abord je conseille aux gens de relire le roman de Bernanos, de le lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Le film aussi, c'est très intéressant de le voir. Denisant meurt à la fin dans le confessionnal de l'église. Oui. De toute façon, on sent qu'il est, il est mourant quasiment tout le long du film parce qu'il est toujours pâle, il est toujours en train de transpirer.
Tout particulièrement pâle. Enfin, c'est un blanc cadavérique.
Voilà, c'est ça.
Écrasé par l'emprise du diable sur tous les gens qu'il confesse.
Oui. Alors qu'il est considéré comme un saint. La troisième partie du roman de Bernanos, le sous-titre, c'est le saint de l'Imbre. L'Imbre, c'était sa paroisse. Donc il meurt dans le confessionnal de l'église et c'est Menou Segret qu'il découvre dans le film. Donc on voit Depardieu avec ce visage blafard et lumineux, les yeux ouverts, tournés vers le ciel. Et Piala, en fait, a changé la fin du roman de Bernanos. Le roman de Bernanos, ce n'est pas Menou Segret qui découvre... Le prêtre mort. Non, c'est un académicien qui est en visite, qui vient pour voir le saint de l'Imbre, pour se faire mousser, comme on dirait aujourd'hui, pour faire le buzz. Et c'est lui qui le trouve mourant dans le confessionnal. Les derniers mots de Donissant sont adressés à cet académicien, dont certains ont vu une caricature d'Anatole France, avec qui Bernanos n'était pas en très bon terme. Et en fait, Bernanos écrit les derniers mots de Donissant. « Tu voulais ma paix, s'écrit le saint, viens la prendre. » Et ça se termine là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous aviez lu le roman avant de... Avant de voir le film, ou après l'avoir vu d'ailleurs.
J'ai lu le roman, mais ça fait plusieurs années, oui.
Et moi, ça m'a donné envie d'encore m'y replonger. Mais je reviens souvent à Bernanos. Nous allons conclure cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. Je rappelle que le Ciné-Parole que vous animez mardi prochain à l'ABC le 26 mai est consacré à Vivaldi et moi, le film de Damiano Micheletto. Le public pourra échanger avec vous à l'issue de la projection qui commence à 14h30. Je rappelle également à nos auditeurs cinéphiles leur rendez-vous chaque mercredi à 19h en direct sur Radio Présence avec N'oubliez pas l'ouvreuse, l'excellente émission de Louis-Marie Soler. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Marius Pujol. Merci à tous de rester fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.